va donc nettoyer au propre comme figuré la cité des Capulets.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les hauts immeubles, il faut nettoyer.
Mais au fond, je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité.
En ce qui concerne le problème de l'emprisonnement des mineurs, l'emprisonnement lui-même s'avère très souvent un mal plutôt qu'un remède. Il est traité comme délinquant. Et par là même, il se sent délinquant. Il devient délinquant.
Si tu joues aux policiers, ils joueront au bandit. Si tu joues au bon Dieu, ils joueront au diable. Si tu joues au geôlier, ils joueront au prisonnier. Si tu es toi-même, ils seront bien embêtés.
Bonjour à toutes et à tous. Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Et c'est donc parti pour une demi-heure d'émission autour du social avec un grand S, des questions de sécurité et d'insécurité. Et oui, dans cette émission, on s'efforce d'aborder tous ces sujets qui sont au cœur du débat public. Wakadi, c'est tous les lundis à 5h30 et les vendredis à 10h30 sur Radio Clapas 93.5. Régulièrement, c'est la délinquance des mineurs qui est désignée comme responsable des malheurs de notre société. Les pouvoirs publics seraient trop laxistes, l'arsenal législatif dépassé. Ça, c'est pas nouveau, la jeunesse fait peur. Alors aujourd'hui, encore, nous vous proposons une rencontre avec quelqu'un qui a quelque chose à dire. Il s'agit de Jean-Marie Angelini, qui est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse dans le Gard. Jean-Marie Angelini, bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez derrière vous une longue carrière d'éducateur, doublée d'un long engagement militant, puisqu'en effet vous militez depuis 36 ans, on a discuté juste avant l'émission, et vous avez même eu plusieurs années des responsabilités nationales au sein du SNPES PJJ-FSU, qui est le syndicat majoritaire à la PJJ. C'est ce même syndicat qui lutte sur toutes les questions qui touchent à l'enfance en difficulté, et notamment celles qui concernent l'enfermement des mineurs. Je crois que le slogan de votre campagne contre l'enfermement des mineurs, c'est « La vie ne s'apprend pas en prison ». Vous allez pouvoir nous parler de tout ça, vous nous expliquerez ce que c'est la PJJ, on abordera ensemble toutes les questions qui se posent actuellement autour de la justice des mineurs et de la fameuse ordonnance de 45. Alors comme Marco est en vacances, le vénard on peut dire, hein, je crois, ouais. Eh bien, on ne sera que trois pour discuter avec vous aujourd'hui. Salut Manu.
Salut Guillaume.
Salut Jean-Jacques.
Salut Guillaume.
On est vraiment très heureux de vous accueillir dans cette émission et on vous rappelle que vous pouvez réagir, demander des infos, protester ou tout simplement nous saluer en nous écrivant wakadi@free.fr. Wakadi, on vous rappelle encore que c'est un
acronyme.
Acronyme, ça veut dire on a quelque chose à dire. wakadi@free.fr.
Wakadi, tous les deuxièmes et quatrièmes lundis du mois, à 17h30 sur Radio Clapas, 93.5.
Alors Manu, un coup de gueule aujourd'hui ?
Ouais, alors c'est au départ c'est un coup de gueule qui se transforme en coup de promo, puisque vous pouvez trouver sur le net un appel pour la libération des prisonniers d'Action Directe. Vous savez qu'encore 4 prisonniers... des anciens militants d'Action Directe sont encore incarcérés. Il y a une pétition qui demande la libération puisqu'ils ont déjà accompli leur peine de sûreté et qu'aujourd'hui il y a un refus manifeste de les libérer.
La peine de sûreté qui était à combien d'années ?
Je n'en sais rien.
Tu sais pas ?
Non.
Voilà. Toujours précis. Non, on est toujours précis. Oui. C'est une règle chez nous.
On peut trouver ça sur le site. Tu peux nous donner l'adresse.
Cette émission où on se piège. D'accord. Non. Je connais pas la durée de la peine de sûreté. Au-delà de ça, c'est vrai qu'il faut voir qu'ils ont libéré Joël Aubron, qui est décédé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, quelques mois avant qu'elle décède, que Nathalie Ménigon est toujours dans un état apparemment pas terrible, et qu'ils refusent d'appliquer ce qu'ils ont appliqué pour Papon, qui lui n'a pas fait un grand séjour en prison.
C'est-à-dire une démarche d'humanité, c'est ça ?
Voilà. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié le texte de la pétition qui pose bien que, quoi que nous pensions de leurs activités passées, nous demandons leur libération dans les plus brefs délais. Je crois que voilà. Bon. Donc vous pouvez aller signer cette pétition sur le site que je vais essayer de vous épeler puisque c'est assez compliqué. http://nlpf.samizdat.net.
Samizdat. Et NL, redis-moi les initiales avant.
nlpf.samizdat. sa mise date. Alors NLPF, tu veux savoir ce que c'est.
Exactement.
Hein, ça veut dire ne laissons pas faire.
Voilà. Ça va mieux
Ben écoute, j'espère que ça va aller mieux, surtout pour eux.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
Bonsoir. La France a peur.
Tu connais plus, nous, la télé, hein. Eh ben, le sentiment d'insécurité, là, eh ben, il a complètement disparu, là.
Plus que je regarde plus la télé, eh ben, mon sentiment d'insécurité, il a complètement disparu.
La France a peur.
Complètement.
Donc, depuis qu'on a plus la télé, tu vois, eh ben, le sentiment d'insécurité, on l'a plus non plus. Depuis qu'on l'a foutu aux escroubis, la télé.
La France a peur.
Sentiment d'insécurité avec Tati Germaine. Eh ben, il a complètement disparu. Complètement, hein.
TF1 20h avec Roger Gicquel.
Alors, Jean-Marie Angelini, ravi de vous accueillir dans cette émission.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, avant qu'on rentre après dans, un peu plus dans le vif du sujet?
Oui, en allant peut-être assez vite, en disant d'abord que nous appelions avant l'éducation surveillée, et que nous appelons depuis une quinzaine d'années protection judiciaire de la jeunesse, et que nous sommes une des directions du ministère de la Justice, qui a été créée en 1945, au sortir de la guerre, quand l'ordonnance du 2 février 1945 a elle aussi été promulguée, qui s'inspirait d'ailleurs du programme du Conseil national de la résistance et qui avait pour vocation, on va dire, de traiter les problèmes de l'enfance délinquante d'une autre manière, qu'en voulant enfermer et qu'en voulant réprimer cette jeunesse-là et en considérant qu'il y avait de l'accompagnement éducatif et des mesures éducatives à prendre prioritairement pour ces jeunes-là. Donc cette administration est, somme toute, au regard de l'histoire, une administration relativement jeune, et a pour vocation, même si aujourd'hui elle est encore, elle est à nouveau, j'allais dire, menacée de changer un petit peu d'orientation et de direction, c'est une administration dans laquelle nous avons un certain nombre de services qui prenons en charge des jeunes placés ou orientés par les juges pour enfants à partir de centres de jour, à partir de foyers, à partir de services de milieu ouvert, et que donc nous pouvons, même si aujourd'hui les choses sont un peu plus compliquées, prendre en charge des mineurs, soit au titre de l'ordonnance de 45, c'est-à-dire des jeunes qui ont commis des actes délictueux, soit au titre de l'assistance éducative.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est l'ordonnance 45? Parce que moi j'entends Sarkozy dire il faut absolument modifier l'ordonnance 45, et je sais même pas ce que c'est ce truc.
Ben, ce truc, en l'occurrence, c'est une loi, une ordonnance puisqu'elle a été prise de cette manière-là, mais qui... en gros, dit que pour les jeunes qui ont commis des actes délictueux, on ne peut pas ramener ces jeunes essentiellement aux actes commis, mais qu'ils ont un parcours, une histoire, et qu'ils ont surtout, parce qu'ils sont mineurs, nécessairement besoin d'accompagnement éducatif avant d'envisager des mesures répressives. C'est un petit peu ça qui...
Je comprends du coup pourquoi il l'a modifié.
Voilà.
Et alors, par contre, son argument, c'est de dire que cette ordonnance est datée, puisqu'elle date de 45, que tout a changé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ordonnance de 45? Est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui?
Alors, qu'elle soit datée, oui et non, parce qu'il y a eu tout au long des dernières années des modifications qui sont intervenues, qui ont consisté à adapter un petit peu les choses. Je crois qu'elle a été modifiée une vingtaine de fois, je crois, en l'espace d'une quarantaine d'années, des fois dans le bon sens, des fois dans le mauvais sens, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, que nous en faisons. Dans le bon sens, quand il s'est agi, par exemple, à un moment donné, de réduire la possibilité d'incarcérer les mineurs, et puis dans le mauvais sens, lorsqu'il s'est agi dernièrement de créer, par exemple, les centres fermés. Donc,
alors ça, les centres fermés, c'est quoi? C'est la loi Perben 1, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en 2002, une grande loi qui d'ailleurs ne concernait pas que les mineurs, a consisté effectivement à relancer le problème des centres fermés pour accueillir des mineurs ayant commis des actes délictueux. Quand on dit relancer, c'est simplement parce que c'est une formule de prise en charge dans de l'enfermement qui ne veut pas dire que c'est de la prison, mais dont on sait quand même que ça s'en rapproche, et qui a déjà été expérimenté dans nos services aux alentours des années 70, puisqu'il y avait un centre à Juvisy-sur-Orge en région parisienne qui fonctionnait, qui a été source de beaucoup de violences d'ailleurs à l'interne, qui était source aussi de difficultés quand les jeunes en sortaient parce qu'ils étaient stigmatisés puisqu'ils avaient été dans ces centres-là, et qui d'expérience ont démontré, j'allais dire, leur incapacité à traiter les problèmes de fond. Et d'ailleurs, Monsieur Perfit lui-même, qui était ministre de la Justice à l'époque, a contribué à arrêter l'expérience, dans la mesure où on s'est rendu compte que c'était relativement inefficace, et surtout, comme le disait un rapport à l'époque, que c'était une cocotte minute permanente, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement de la violence entre les jeunes, de la violence entre les jeunes et les personnels, et que nous nous sommes aperçus que ce n'était pas une solution viable à long terme pour ceux-ci, quoi.
Mais alors pourquoi ils sont du même bord politique, je crois, Monsieur Sarkozy, Monsieur Perfit, ou à peu près.
Oui, à peu près.
Et alors comment il aurait pu oublier ça, qu'a priori tous les rapports de l'époque disaient que ça marchait pas, où est son intérêt à proposer ce genre de solution?
Parce que je crois que il y a deux façons d'appréhender les problèmes de la jeunesse en difficulté. Soit il y a, j'allais dire, une vision courte et une vision un petit peu qui brosse dans le sens du poil l'opinion publique, et donc à fournir ou à donner de la répression là où on pense que ça va être une solution à aux difficultés, et là où nous savons que c'est ce que moi j'appelle une réponse courte et qui n'engage pas l'avenir des jeunes. Donc,
si vous êtes contre les centres fermés, du coup, vous êtes sûrement pour les centres ouverts.
Oui.
Et est-ce que ça marche? Parce que c'est vrai que moi, c'est vrai que j'entends beaucoup parler des centres fermés, je ne savais pas que ça a eu existé déjà à l'époque. Et j'aimerais savoir si cette décision-là n'est pas aussi issue d'un échec des centres ouverts. Enfin, j'appelle ça les centres ouverts, je pense que vous appelez pas ça comme ça. Mais...
Non, enfin, il y a des services de milieu ouvert, il y a des foyers d'hébergement qui permettent d'accueillir les jeunes, j'allais dire, de manière un petit peu traditionnelle. Il y a eu quelques études qui ont été menées, soit à partir des tribunaux, soit à partir de nos services, qui démontrent quand même qu'en gros, pour aller vite, 80% des jeunes qui sont pris en charge de manière, j'allais dire, traditionnelle, même si on est en perpétuelle innovation, parce que quand on travaille avec des jeunes en difficulté, on ne peut pas se permettre de dire que c'est du traditionnel qui ne bouge pas. On a fait la démonstration qu'en gros, 80% de ces jeunes-là ne récidivaient pas pouvaient arriver à s'en sortir. Et on a aussi l'expérience, à contrario, que quand on place des jeunes en détention, bon, j'ai quand même la faiblesse de penser que les centres fermés, même s'ils veulent nous dire que c'est éducatif, quelque part quand même, c'est de l'enfermement ou de l'éloignement, et que ça, grosso modo, ça correspond un petit peu à de l'enfermement et à de l'emprisonnement. On a la démonstration contraire, c'est qu'en gros, quand on a été en prison, et notamment quand on y va jeune, en gros, les jeunes récidivent à 80% dans l'année qui suit. C'est-à-dire qu'il y a en gros 8 jeunes sur 10 qui, lorsqu'ils ont eu une expérience d'emprisonnement, retourne en prison immédiatement et assez rapidement. Donc voilà, alors on peut faire dire aux chiffres des choses qu'ils ne disent pas. Bon, on est conscient, nous, que on n'a pas non plus. Hein. Moi, je dis aussi qu'il y a un certain nombre de fois où on est en échec avec les jeunes dont on s'occupe. Cela étant, j'allais dire, sur les grandes tendances, la démonstration, on la fait un petit peu tous les jours, que quand on veut avoir les moyens, quand on peut prendre en charge concrètement les jeunes dans leur environnement, là où ils sont, là où ils vivent, et là où ils peuvent bâtir des projets, c'est certainement là qu'on peut arriver à infléchir les choses et à faire en sorte qu'ils s'en sortent.
Et les centres fermés, c'est pas une alternative aussi à la prison pour les jeunes?
Alors, quelque part, nous, on ne considère pas que ce soit une alternative à la prison. D'abord parce que, bon, la façon dont ils sont conçus, c'est-à-dire avec quand même des grands grillages, des grands murs et un enfermement permanent, ça s'apparente quand même à de l'emprisonnement. Et il faut savoir, par exemple, que les jeunes qui seront placés ou qui sont placés aujourd'hui, si, par exemple, ils s'en vont et si ils doivent fuguer, au retour de la fugue, ils iront en prison. Donc ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui,
la fugue devient un délit, en fait, c'est ça.
Voilà, ce qui est d'ailleurs tout à fait étonnant, parce que moi, je fais partie des collègues de la PJJ qui promenons une expo là dans les collèges où on, sur les droits et les devoirs des jeunes, et où on explique aux jeunes que la fugue n'est pas un délit. Pour le coup, je suis obligé de revoir un peu ma copie et je leur dis, sauf dans le cas des centres fermés, puisque lorsqu'un jeune partira, alors d'aucuns disent qu'il s'évade, ce qui est d'ailleurs une façon de voir les choses, mais en tout cas lorsqu'il fugue de ça, contrairement à ce qu'est la fugue aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est le révélateur d'une difficulté, d'un symptôme, et que nous, éducativement, on sait qu'on peut travailler là-dessus, là pour le coup, ça devient un délit et donc on peut aller en prison. Donc c'est pour nous pas alternatif. relatif à la prison. La preuve, c'est qu'on risque, on le voit aujourd'hui, d'avoir des jeunes que nous prenions en charge préalablement dans nos foyers, dans nos institutions, qui aujourd'hui ne viennent plus vers ces institutions, mais vont directement vers les centres fermés. Donc c'est pas une alternative aujourd'hui à l'incarcération, c'est plutôt mis à profit comme étant une alternative à d'autres solutions qu'on pourrait leur proposer.
Alors ce qu'on entend quand même, Jean-Marie Angelini, quand même, dans le débat public sur ces questions-là, c'est quand même que ça serait quelques gamins qui mettraient, quelques adolescents de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui mettraient la panique dans les cités, dans les quartiers dits difficiles, et que du coup, peut-être éloigner ces jeunes-là de ces quartiers, et en tout cas réagir de façon très nette face au sentiment d'impunité dont les jeunes seraient emprunts, ça permettrait d'apaiser ces quartiers-là. Est-ce que ça correspond à la réalité que vous constatez, vous?
Non, parce que bon, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. On sait tous aujourd'hui que dans les quartiers, si demain ça arrive, qu'il y ait des jeunes qui donc n'y soient plus, soit parce qu'ils ont été pris par la police, soit parce qu'ils sont incarcérés, on sait aujourd'hui que quand un jeune s'en va, c'est un autre qui prend la place. Voilà, ça c'est la vie, en tout cas, telle que nous on la constate, d'une part. Et si on pouvait imaginer qu'il s'agit simplement de 4, 5 ou 10 jeunes qui mettent le souk dans une cité, qui suffirait de les retirer pour que ça aille mieux dans la cité, je serais tenté de dire qu'on le saurait déjà, on l'aurait déjà fait. De mon point de vue et de notre point de vue, les problèmes sont plus complexes, sont plus profonds que ça. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a dans les cités des difficultés majeures, c'est d'abord parce qu'on répond pas à des questions aussi lourdes que l'insertion des jeunes, que le chômage, que la précarité, que la santé, que le logement, que toute une série de droits et que les problèmes qui peuvent se poser en termes de mal-vie, et que donc c'est pas parce que demain on va retirer ces jeunes que ces problèmes-là vont disparaître avec eux. Ils vont rester, ces problèmes-là. Et donc les problèmes d'insertion et de sécurité professionnelle, pour le coup, ou d'accès au logement ou d'accès à la santé, vont demeurer. Et donc c'est pas en retirant ces jeunes-là qu'on va faire mieux aller la cité. C'est simplement en essayant de répondre au fond à ces questions-là, quoi.
Il y a une question qu'on avait envie de vous poser en vous invitant, c'est une question qu'on se pose tous, c'est quoi être éducateur dans le concret? Donc avant d'y répondre, on vous propose d'écouter un témoignage qu'on a retrouvé. Alors c'est quelqu'un qu'on entend dans le générique d'entrée de cette émission, on l'entend, c'est pas lui qui dit ces mots parce qu'il est décédé maintenant, donc c'est des paroles de Fernand Deligny qui ont été reprises par quelqu'un qui a eu la gentillesse de nous les dire. Donc on va re-entendre un petit aphorisme de Fernand Deligny, et après peut-être on va essayer de répondre à cette question, vous allez essayer de nous dire c'est quoi être éducateur aujourd'hui.
Quand tu auras passé 30 ans de ta vie à mettre au point de subtiles méthodes psychopédiatriques, médico-pédagogiques, psychalano-pédotechniques, à la veille de la retraite, tu prendras une bonne charge de dynamite et tu iras discrètement faire sauter quelques pâtés de maison dans un quartier de taudis. Et en une seconde, tu auras fait plus de travail qu'en 30 ans.
Alors c'était un petit clin d'œil aussi parce qu'on sait que vous n'êtes pas très loin de la retraite, hein, je crois, quelques années, un ou deux ans. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Comment vous pouvez réagir à ça?
Alors je ne sais pas si j'irai mettre une bombe dans les quartiers de Nîmes, enfin j'essaierai pas, mais moi ça me semble quand même dire très très clairement qu'il y a des problèmes, j'allais dire, dans la cité aujourd'hui, qui sont pas forcément que des problèmes d'urbanisme, mais qui sont aussi des problèmes d'urbanisme, mais qui sont certainement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète, des problèmes dont on s'aperçoit que c'est d'abord en réglant, j'allais dire, ces questions de fond sur lesquelles moi j'ai tendance à insister, c'est-à-dire de peut-être du béton, bien évidemment, mais aussi de tout ce qui fait la vie de tous les jours dans ces quartiers, et en agissant dans ces quartiers et sur ces quartiers, qu'on pourra faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes s'insèrent mieux dans la vie qu'aujourd'hui. Donc moi, mon boulot, c'est, et je crois qu'à la PJJ, on a compris ça, on avait compris ça, c'est que d'abord tout seul, on sait pas faire. C'est-à-dire que on n'est pas Superman et super éducateur, et que moi j'ai appris ça tout au long de ma vie, c'est que je me devais de travailler avec l'école, de travailler avec les missions locales, de travailler avec l'environnement, avec le contexte, avec la médecine, avec la psychiatrie, avec toute une série de professionnels et de gens qui ont à voir avec l'éducation au sens large des jeunes, qu'on pouvait arriver petit à petit à retisser des liens, à retisser de la communication et à essayer de bâtir un projet pour des jeunes. Ça, je l'ai appris. Et je sais que donc, maintenant, je ne pourrai plus faire comme je faisais il y a une trentaine d'années. J'ai commencé ma carrière pas très loin d'ici, à Agnan, où on avait les jeunes 24 heures sur 24 dans un établissement, 365 jours par an, et où on pouvait, sur place, faire l'école, l'atelier, manger, dormir, faire du sport, les loisirs, etc. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas et qu'il fallait qu'on soit en prise directe avec l'environnement social des jeunes. Je ne dis pas, disant cela, c'est ce que j'ai pas pu dire tout à l'heure, mais que je peux dire maintenant, je ne dis pas, disant cela, qu'il n'y a pas la nécessité pour un certain nombre de jeunes, à un moment donné, parce que dans leur quartier c'est trop chaud, parce que c'est trop chaud pour eux, c'est-à-dire que bon, ils se sont mis dans une telle situation que rester dans le quartier pourrait engendrer un certain nombre de difficultés encore plus graves. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de temps en temps éloigner un certain nombre de jeunes et dire bon, on va essayer d'introduire de la rupture dans tout ça et de refaire un petit peu. Mais là, ce que je conteste aujourd'hui, c'est que cette stratégie-là d'éloignement et d'enfermement est une stratégie, j'allais dire, que nos gouvernants essayent de prôner à tout va et concernant l'ensemble des jeunes. Comme étant la méthode. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir recours à ça pour certains jeunes bien particuliers, et ça peut faire partie à un moment donné d'un moment de leur parcours, mais qu'on ne peut pas, j'allais dire, ériger ça en stratégie éducative pour tout le monde. Donc, voilà, moi, ce que j'ai appris tout au long de ma carrière. Et donc, à quelques années de la retraite, je pense que j'entends un petit peu ce que nous dit Deligny. Effectivement, sur les temps du psy, il en faut quand même. Je veux dire, quand on est un jeune aujourd'hui en souffrance, je crois qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir dire, même si pour eux c'est compliqué, parce que mettre des mots là où eux mettent des actes, c'est pas le plus simple pour eux, mais je crois que c'est aussi notre boulot de les accompagner à mettre des mots là où hier ils mettaient des actes.
J'ai l'impression qu'on entend quelquefois des critiques face à des éducateurs comme vous qui sont... vous êtes un peu dans l'angélisme, vous les excusez tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument-là? Est-ce que les comprendre, c'est les excuser? Et voilà, qu'est-ce que vous allez répondre à ces arguments-là?
Je crois que le premier élément que j'ai à dire, c'est que je demande aux gens, et je me le dis à moi-même, de ne pas oublier que ce sont d'abord des enfants. Quand on est mineur, j'en discutais encore il y a deux ou trois jours à propos de l'expo 13-18 là, dont je parlais tout à l'heure, n'oublions pas que ce sont des enfants et que parce qu'ils sont enfants, parce qu'ils sont jeunes, ils sont encore en devenir et que donc ils n'ont pas à leur disposition, j'allais dire, toute la responsabilité et tous les apprentissages qu'on peut avoir au bout d'un certain temps et que donc à partir de là, moi je revendique pour ces jeunes-là, j'allais dire comme je le revendique pour tous les jeunes, et y compris pour mes enfants à moi, c'est-à-dire en gros le droit à l'erreur, quoi, c'est-à-dire la possibilité, parce que c'est comme ça qu'on avance. Dans les apprentissages, c'est parce qu'à un moment donné, on fait des erreurs et parce que on sait qu'on va avoir quelqu'un qui va nous aider à dépasser ça, qu'on va pouvoir se construire. Donc là où je pense qu'aujourd'hui on est face à une vraie difficulté, c'est que on nous dit ou en gros on pense qu'on peut être adulte avant l'âge d'y arriver, quoi. Et être adulte avant l'heure et être responsable avant l'heure. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de penser que parce qu'on est enfant, parce qu'on est jeune, on est en devenir et qu'on est en formation et que donc on apprend et qu'on a aussi le droit à l'erreur. Voilà. C'est pas excuser, c'est essayer de comprendre pourquoi, pour un certain nombre, ils en sont arrivés là. Et moi, je dis qu'on n'arrive pas là parce qu'on a envie d'y arriver, mais qu'il y a toute une série de choses dans son histoire, dans sa vie, dans son milieu, dans son contexte qui explique ça. Mais il y a bien plutôt pour nous la nécessité de comprendre un peu et de les aider à construire quelque chose qui les aidera à dépasser les actes qu'ils ont commis.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le groupe L'Air de Rien, un groupe toulousain.
Un million d'enfants, le chiffre paraît astronomique. Un million d'enfants dans notre bonne république. Déjà hors jeu, déjà exclus, avant même d'y être rentrés. Déjà paumés, déjà perdus, avant de savoir où aller. Un million d'enfants en France sous le seuil de pauvreté qui crèvent d'indifférence, ça peut faire des révoltés. Le ministre a bien raison de repérer les rebelles, de prendre des précautions dès 3 ans en maternelle. Un million d'enfants tous remisés dans leur misère. Un million d'enfants traînant une vie délétère. Pour qui la vie, ça se mérite. Pour qui la vie doit se payer. Les parasites que l'on dit la lie de la société.
tous ceux qui ont un faciès acariâtre ou agressif, ceux qui refusent les caresses et les trouvent vindicatifs. Le ministre a ses raisons, faut rendre tout ça docile pour enrichir les patrons. Faut de la main d'œuvre flexible, alors flic tout ça vos fiches, fichez ces fichus fauchés pour permettre aux fils de riches de pouvoir dormir en paix. Quelle sinistre solution pour ces bambins qu'on dit bandits des 6 ans, qu'on ne peut pas mettre en prison. Gavons les deux tranquillisants.
Un million d'enfants.
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 Un million d'enfants, le chiffre paraît astronomique.
Un million d'enfants dans notre bonne république. Déjà hors jeu, déjà exclu, avant même d'y être rentré. Déjà paumé, déjà perdu, avant de savoir où aller.
Laissé pour compte,
comptant pour rien.
Dans les calculs économiques,
quel est le poids
de leur destin
face à l'intérêt stratégique de la France d'après-demain.
Alors, on retrouve Jean-Marie Angelini sur le plateau de Wakadi. Une dernière question, parce que là, on arrive bientôt à la fin de l'émission, et cette question de la démission des parents. C'est-à-dire, les parents, est-ce qu'ils sont démissionnaires?
Écoutez, j'ai envie de répondre très, très franchement, non. Moi, je connais des parents en difficulté, je connais des parents qui ont besoin d'être soutenus, d'être aidés, qui bien souvent le demandent d'ailleurs, parce que ils se rendent compte qu'avec leurs enfants, ils n'y arrivent pas ou ils n'y arrivent plus. Ils sont eux-mêmes dans des situations de précarité extrême, dans des difficultés matérielles, affectives quelquefois, des difficultés d'insertion, de boulot. Et ils ont la volonté, je crois, d'y arriver. Simplement, voilà, à un moment donné, c'est compliqué. Il y a des questions lourdes qui se posent pour l'avenir de leurs enfants. Ils ont des questions lourdes même à régler. Et moi, dans mon métier, dans mon parcours professionnel et dans ce que je vis encore aujourd'hui, je trouve plutôt des parents qui sont assez contents de nous voir arriver, qui nous demandent quelquefois et qui ont plutôt envie qu'on travaille avec eux pour arriver à retisser des liens, à retisser de la communication, à retisser un certain nombre de choses avec leurs enfants, plutôt que des parents qui diraient « voilà, moi écoutez, j'en ai rien à foutre et je veux pas ». La preuve, c'est que bon, quand par exemple, nous avons, et bon, nous le regrettons, mais quelquefois c'est comme ça, des enfants qui, des jeunes qui atterrissent en prison, moi ce que je constate, c'est que bien souvent, les parents se mobilisent encore plus pour aller les voir et pour essayer effectivement de maintenir ce lien-là avec eux et d'essayer de construire quelque chose pour qu'ils sortent. Donc je conteste formellement cette démission-là. Il n'y a pas de démission. Il y a des gens en difficulté et il y a des gens qui ont envie de s'en sortir.
Juste, j'ai une petite question par curiosité. C'est comment vous êtes perçu dans les familles, en fait, auprès des mineurs que vous accueillez ou auprès des familles avec qui vous travaillez? Parce que c'est vrai, moi ça me paraît, vous êtes éducateur, en même temps vous travaillez pour la justice.
Fonctionnaire du ministère de la Justice, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes perçu comment? Un petit peu comme des demi-policiers, comme des... quel rapport vous entretenez, en fait, avec ces jeunes? Ou avec ces familles, hein, en fait.
Oui, bien sûr, oui. Moi, je serais tenté de dire que je vais pas, j'allais dire, biaiser cette question. Je pense qu'il nous faut du temps pour entrer en confiance avec les gens, que d'emblée, c'est pas forcément évident. C'est d'ailleurs pour ça que nous revendiquons la possibilité d'avoir de nous inscrire dans la durée par rapport à la prise en charge des jeunes, parce que voilà, moi je vais dire, quand je vais dans une famille, je vais aussi dans leur vie privée, je rentre dans leur intimité, que c'est pas évident d'y rentrer comme ça, et qu'il faut beaucoup de précautions, il faut beaucoup de temps pour arriver à être en confiance. Mais ce dont je peux témoigner, c'est que il n'y a pas de leur part. Ça peut arriver d'avoir, sur quelques familles, parce que c'est un peu plus compliqué, d'avoir de la réticence. Il y a au contraire beaucoup de confiance qui peut s'installer à partir du moment où on est là pour les aider. Et j'allais dire où on va pas faire les choses à leur place, mais on va les aider eux à retrouver une fois une certaine dignité, parce que quelquefois c'est aussi de cet ordre-là, une certaine responsabilité, une certaine autorité au bon sens du terme, et que donc notre stratégie à nous, c'est pas de faire à leur place, mais c'est de faire avec eux et d'établir un climat de confiance qui permet effectivement avec leurs enfants et avec eux de reconstruire à nouveau des choses.
Excusez-moi, je me rends compte qu'on vous a un peu coupé au tout début de votre introduction, ça me revient d'un coup. On est parti directement sur l'histoire des centres fermés et vous étiez en train de nous dire, et heureusement on l'avait préparé ensemble, qu'il y avait deux publics à la protection judiciaire de la jeunesse. Mmh. Vous parlez de l'ordonnance de 45 et l'autre c'était l'assistance éducative. C'est alors ça. J'ai une question naïve avant la fin de l'émission, c'est comment ça se fait qu'on puisse avoir une mission avec des mineurs qui auraient été auteurs de délits et des mineurs qui auraient été victimes, en tout cas dans le cas de l'assistance, comment on peut répondre à ça?
C'est une originalité du droit français qui, moi, me paraît intéressante. C'est-à-dire que c'est le même juge aujourd'hui qui a à connaître les jeunes lorsqu'ils sont en difficulté sociale, éducative ou affective dans le cadre de procédures civiles et donc de l'article 375. Et c'est le même qui aura effectivement à les juger s'ils commettent des délits. Moi, ça me paraît une richesse dans la mesure où ça mixe les publics et où bien souvent on s'aperçoit que les difficultés sont identiques. J'allais dire simplement, à un moment donné, face à ces difficultés-là, ben, il y a des jeunes qui sont passés à l'acte, d'autres qui n'y sont pas passés ou qui ne se sont pas fait prendre, on va dire, et que donc la mixité de ces publics et le fait que ça soit un seul et même juge qui ait à connaître des parcours qui quelquefois sont des parcours parallèles mais bien souvent semblables, me semble-t-il, c'est une richesse de la législation française et nous qui sommes dans cette administration qui mettons en œuvre ces mesures, c'est aussi une richesse, je crois, de mixer ces publics-là.
Vous avez prévenu, là, on entend la petite musique, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, qu'est-ce qui se passe là maintenant, Jean-Jacques ?
Alors, pour ceux qui sont là dans le studio, c'est facile. Il faut enlever les casques pour mettre le canotier, bien sûr. Et pour ceux qui sont devant leur poste de télévision, c'est leur poste de télévision.
La télévision,
Moi, je me crois toujours à la télé. Ceux qui sont devant leur poste de radio, c'est la même chose.
Rêve de gosse.
Vous mettez vos petits canotiers et on va entamer ensemble ces petits pas de salsa. Alors, Marco est pas là, donc...
C'est Manu, hein.
C'est moi.
Hop. Donc là, on se lève. Monsieur Angelini, levez-vous aussi.
C'est parti.
Voilà. Et puis, on sort du studio comme ça, en faisant ce petit pas de deux, quoi.
C'est pas mal. Marco, il t'a bien formé.
J'avais la pression, je me suis entraîné un peu.
Et on voit qu'au Vigan ou au Vernim aussi, on pratique la samba aussi. Oui.
Ouais. Un semaine profonde.
On vous rappelle les liens internet donc pour le SNPES, PJJ, FSU, donc snpes.fsu.fr si vous voulez des informations sur ce que vient de nous dire Jean-Marie Angelini. Vous pouvez nous écrire sur wakadi@free.fr. Je vous rappelle que Wakadi, c'est un acronyme. Et souvenez-vous, on commence d'abord à renoncer à l'impossible et ensuite à tout le reste. Alors nous, on y croit, l'impossible est en cours. On se retrouve dans 15 jours pour parler de sécurité, d'insécurité et d'action sociale, même heure sur Radio Clapas 93.5. Et quoi qu'il arrive, restons vigilants. Au revoir.